Allô, allô, les studios de Radio Caducée, vous nous entendez?
Oui, on vous entend.
C'est les infos.
Super, bonjour Chalon.
Salut.
Allez, et ben merci pour votre émission.
Que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio, c'est quand Michael Jackson était encore noir.
The Cure. J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu 102.2.
Bonsoir.
Et
c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Et il est 19h15 et c'est l'heure du Canu Info. Alors, ce soir, nous allons parler de... Ah, c'est toi qui as fait le fil, du coup c'est toi qui as tout. Attends, est-ce que je t'ai pas allumé le bon micro? Vas-y, c'est bon, redis.
Je te l'ai posé, tu l'as aussi sous les yeux normalement quelque part.
Ah oui, c'est vrai.
Mais ce soir, bah, figurez-vous qu'on va commencer par faire comme tout le monde. Il semble que l'actualité de l'autre côté de l'Atlantique soit pas complètement joyeuse. On va faire un petit tour par là. Et puis après, on se diversifiera un peu. On ira un peu plus au sud, au Brésil, où les assassins de Marielle Franco ont été condamnés.
Ensuite, on parlera d'état de droit à Rieux-la-Pape. Visiblement, c'est pas... J'ai l'impression que c'est... Quand on en parle, c'est rarement bon signe. Hein.
Guerre à la drogue. Mais toi, non, je t'aime bien avec ta grosse moustache.
Voilà. Donc ça, c'est pour notre envoyé spécial depuis son salon. Hein. Ensuite, on parlera accident de chasse en pagaille avec un P majuscule. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup.
Ah ouais, c'est vrai. Et puis en Turquie, répression contre des mairies. On fera un petit tour par là. Et puis on parlera portes défoncées par la police en France.
Ah ouais, j'ai vu passer l'info trop bien. Et ben voilà, et ben on va commencer par des trucs pas réjouissants, puis après on finira peut-être en rigolant un peu. Alors, eh bien, ça vous a pas échappé, hein. Donald Trump a été réélu, les fascismes grignotent petit à petit les esprits et les pouvoirs. Il est donc validé qu'un dirigeant politique multi-accusé sur de multiples plans judiciaires soit réélu. De nombreuses femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. C'est notamment le cas de E. Jean Carroll, une chroniqueuse du magazine Elle qui l'accuse de viol dans une cabine d'essayage en 1996. Trump sera condamné pour cela par le tribunal pour agression sexuelle en 2023. 5 autres femmes l'accusent publiquement de viol et d'agression sexuelle pour des faits allant de 90 aux années 2000. Sur le plan politique, il est évidemment poursuivi pour fraude électorale en Géorgie en 2020, recel de documents classifiés à Mar-a-Lago, falsification de comptes de campagne de 2016, et il a également été condamné pour surévaluation frauduleuse d'actifs en février 2024. Voilà, un palmarès à faire un peu pâlir Nicolas Sarkozy. Il est bien sûr également poursuivi pour l'assaut du Capitole. Il faut croire donc qu'il a été réélu grâce à ce sordide florilège. Sa première élection n'était donc pas une erreur de parcours. Aujourd'hui, même avec ce qu'on sait de lui, ce qu'il a pu déclarer, ce qu'il a pu faire quand il était aux commandes, son libéralisme extrême, sa politique immonde en matière d'immigration, qui a séparé à partir de 2018 des familles de migrants à la frontière, ses manipulations et mensonges durant la pandémie du Covid-19, et sa participation à l'attaque du Capitole, tout ça a été validé à plusieurs reprises. Vu d'ici, dans nos conversations, on a été beaucoup à se dire, après ce début d'insurrection qui était la prise d'assaut du Capitole, Trump est finito, qu'il s'était cramé. Que dalle, le gars est revenu, a été validé par le Parti Républicain, puis plébiscité par ses électeurs pour se représenter. À chaque putain d'étape, il a gagné pour finir par l'emporter sans le moindre doute. C'est sûr, il n'a pas fait ça tout seul, il a bien reçu le puissant soutien d'Elon Musk, mais également un influent think tank baptisé Heritage Foundation. Le magazine Society en avait fait un article en 2024. Cette fondation d'influence mélange à la fois des thèses ultralibérales et des théories complotistes, comme par exemple les marxistes, qui auraient envahi tous les échelons du gouvernement et préparent un coup d'État. Pour cela, donc, faudrait en faire un soi-même. Ils préconisent donc de fonder leur propre académie pour remplacer ces fameux fonctionnaires marxistes. Évidemment, la fondation s'intéresse aussi au fameux Deep State, qui est l'État profond, qui est donc manipulé par ces fameux marxistes. Et ils s'intéressent aussi aux valeurs de l'Amérique et pointent du doigt le danger LGBTQIA+. Même une fois qu'il a quitté le pouvoir pour la première fois, ses intentions étaient quand même restées dans le pays. On repense par exemple à Amanda Jones, cette bibliothécaire scolaire en Louisiane qui en 2023, donc c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, a été menacée de mort et devenue une cible pour avoir refusé la censure de livres pour enfants évoquant la communauté LGBT ou alors les minorités américaines. Ce n'est pas un acte isolé, des chrétiens fondamentalistes proches du Parti Républicain a tenté plusieurs fois et avait parfois avec succès de faire retirer 4000 titres d'ouvrages des rayons des bibliothèques. Ça, c'est qu'un exemple pour illustrer un peu ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Si Trump a gagné aujourd'hui, beaucoup vont y perdre demain. Vu de loin, on sait d'avance que les pauvres seront écrasés, qu'il ne fera pas bon être une femme, une minorité, que le sort des Ukrainiens et Ukraines est mis dans une balance internationale qui les dépasse, que Netanyahou s'assure encore plus de soutien pour continuer son massacre génocidaire, que les fascismes européens y trouveront un puissant allié, que ceux qui se rêvent d'accéder au pouvoir ont de fortes raisons d'y croire, que ceux qui font semblant de ne pas l'être sauteront sur l'occasion pour faire ce qu'ils rêvent de faire. Car, je les cite, ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera pire demain. Bref, beaucoup de ce qui se passe là-bas résonne ici. Si personne n'a de boule de cristal, il est quand même prudent de se préparer à encore pire, mais n'oublions pas que rien n'est joué d'avance. Ah, et un point de vue français ?
Oui, un point de vue français, parce que tout ça est quand même tellement carrément flippant qu'on peut malgré tout voir les petites choses rigolotes dans l'événement. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, conscient de l'importance internationale de chaque mot qu'il tweete, conscient du poids de son soutien, a tenu ce matin à féliciter Donald Trump. Il l'a fait très tôt, avant 9h, bien avant que Donald Trump soit officiellement vainqueur, mais quand il restait quand même plus beaucoup de doutes, espérant sans doute être le premier chef d'État à le faire pour qu'au moins Trump voit passer son nom quelque part. Et puis, on aime aussi le contenu du message. Message dans lequel Macron dit « Félicitations, président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années ». Alors, pour les plus jeunes, ou pour celles qui ne se souviennent pas, parce que tout le monde n'est pas obligé de se passionner pour les conneries des clowns qui nous gouvernent, en 2018, Macron était allé aux États-Unis à une époque où Trump était déjà président. Et Trump en avait quand même profité pour se foutre de sa gueule dans les grandes largeurs, mais Macron avait fait semblant de rien, avait fait semblant que tout s'était bien passé. Mais voilà ce qui est arrivé. Macron était arrivé en n'étant quand même pas tout à fait sûr de l'accueil qu'il allait recevoir, parce qu'avant, par presse interposée, il ne s'était pas dit que des choses sympas, les deux. Mais là, il voulait parler de plusieurs sujets, en particulier de la conduite à tenir face à l'Iran, pour le bloc occidental. Alors, il n'était pas complètement sûr de comment Trump allait l'accueillir, mais il était certain, parce que quand même c'est Emmanuel Macron, qu'il allait retourner le bonhomme en 2 minutes et le convaincre de tout ce dont il voudrait le convaincre. Trump l'avait reçu triomphalement. Franchement, le jour où Macron était arrivé, une réception digne d'un empereur. 1000 déclarations comme quoi Macron était son meilleur ami, feu d'artifice, garde républicaine, ovation des Trumpistes au Congrès, un truc de malade. Macron, qui déjà est Macron, c'était tout ce qu'il fallait pour le faire enfler, quoi. Mais là, ouais, c'est ça. Là, il était au bord de l'explosion, le Macron. Il était le roi, le président du monde. Ça, c'était le premier jour. Le jour qui avait été consacré aux cérémonies. Mais le deuxième jour, c'était le jour des discussions sérieuses. Et là, retour total de bâton, Trump avait dit non à tout. À chaque fois que Macron ouvrait la bouche, c'était non, 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 encore non. Et c'était vraiment, ça avait été fait d'une manière qui était méga humiliante pour le Macron. Et encore, à l'époque, Macron gouvernait la France. Aujourd'hui, Macron ne gouverne plus rien. Il se plaît à penser qu'il aurait encore un rôle dans la politique internationale. Mais on sait qu'il n'a que le rôle que son Premier ministre veut bien lui laisser. Et pourtant, Macron n'en rate pas une occasion d'essayer de se rapprocher d'un peu de lumière, n'importe quelle lumière. Alors des fois, il se fait virer par des vigiles un peu fatigués. Non, non, monsieur, il faut circuler maintenant. Mais au moins sur Twitter, il a encore le droit d'écrire ce qu'il veut. Et il y a toujours des journalistes en page 18 pour recopier un extrait de son tweet. Et puis, vous voyez, Macron n'est pas tout à fait oublié. Il vient de faire 3 minutes sur Radio Canu.
Et on va s'écouter une petite musique de circonstance et on va s'écouter, c'est The Exploited avec Fuck the USA qui commence par il n'y a vraiment rien de bien aux États-Unis, tu vas à l'hôpital, tu dois payer le dollar est la seule langue qu'ils parlent tous.
Canu Info. Donc une petite info internationale du Brésil, info qui date en fait de jeudi soir, c'est que le tribunal du jury populaire brésilien a confirmé la condamnation des assassins de Marielle Franco. Marielle Franco, pour rappel, c'était une conseillère municipale de Rio, très militante, noire, très charismatique, de gauche bien sûr, du parti du PSOL, qui était en train d'écrire à ce moment-là un rapport sur les violences policières à Rio, quand elle a été assassinée par balle. Donc c'était en mars 2018, donc elle et son chauffeur Anderson Gomez, en voiture en plein centre de Rio. Donc ensuite, à partir de là, il y a eu une grosse campagne pendant plusieurs années, Quem Matou Marielle Franco, qui veut dire qui a tué Marielle Franco, parce que la justice n'avançait pas à ce moment-là. Donc après 2 jours de jugement, donc le 30 et 31 octobre, les deux ex-policiers militaires qui ont été condamnés pour l'assassinat de Marielle Franco, de Anderson Gomez et pour la tentative d'assassinat de Fernanda Chavez, qui était l'autre survivante de l'attentat. Ils ont été condamnés à 78 et 59 années de prison, plus indemnisation pour la pension du fils de Anderson et des dommages pour la famille de Marielle. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la juge Lucia Glioche a fait une déclaration qui correspond bien à la justice brésilienne. Elle a déclaré que la justice, parfois, est lente, est aveugle, est bête, est injuste, est mauvaise, est tordue, mais elle arrive. La justice arrive même pour ceux qui, comme accusés, pensent qu'ils ne vont jamais être atteints par cette justice. Donc ça reflète bien la justice brésilienne. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Rony Lessa, qui est un des assassins, a avoué avoir collaboré avec la justice. Après avoir collaboré avec la justice, il a avoué avoir été aveuglé par la somme proposée pour ce crime, qui était de l'ordre de millions de reais. Mais on sait aussi que le chef de la police fédérale, qui a aussi témoigné pendant le jugement, a indiqué qu'il y aurait aussi une origine politique, car Marielle, elle agissait aussi sur des questions foncières, et elle était une épine dans le pied pour les milices. Voilà. Et on peut aussi parler de la sœur de Marielle Franco, qui est Aniel Franco, qui est aujourd'hui ministre de l'égalité raciale sous Lula, sous le gouvernement de Lula. Et elle a déclaré « Il y a besoin de mettre fin à la normalisation de la violence contre les Noirs, enfants victimes de balles perdues et personnalités publiques assassinées. Nous continuerons la tête haute pour Marielle, pour Anderson et pour le droit à une vie digne. » Et on peut aussi ajouter que l'enquête se poursuit, car les commanditaires n'ont pas été encore condamnés. Il y a bien sûr des suspects.
Canu Info. Du mercredi.
Et ça c'était des nouvelles de l'état de droit au Mexique, mais là maintenant on va passer par l'état de droit à Rieux-la-Pape. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans la nuit de jeudi à vendredi dernier et dans la nuit de vendredi à samedi, Rieux-la-Pape a été le théâtre de violences urbaines, comme on dit. Alors moi j'y étais pas, et je dois dire que sur ce genre de sujet, j'ai une confiance limitée dans ce que la presse raconte. Là, j'ai pas réussi à comprendre s'il y avait eu un élément déclencheur, mais en tout cas, on dirait que des bus TCL ont cramé. Alors après, quand même, que les émeutiers aient gentiment fait descendre tous les passagers et les chauffeurs, et que les gens se sont castagnés avec les flics. Bon, classique, il faut bien que jeunesse se passe, et puis si ça se trouve, il y avait un déclencheur dont on n'est pas au courant. Mais le maire de Rieux, un certain, je ne sais plus son nom, c'est pas grave, obscur il est, obscur, il peut bien rester. En tout cas, un maire du parti de Édouard Philippe Horizon, c'est-à-dire la droite du centre de droite plus ou moins extrême, a eu une brillante idée, ou plutôt il a recopié une vieille idée de merde. Tiens, a-t-il dit, comme on a réussi à arrêter 2 ou 3 gamins, on n'aurait qu'à virer les familles de ces gamins de leurs logements sociaux, et puis dans la foulée, on pourrait leur couper les aides sociales. Alors, comme le rappelle un communiqué de presse du DAL 69 qui parle de ça, c'est quand même un peu problématique. Le communiqué dit, en théorie,
C'est quand même un petit peu problématique.
Un peu problématique. En théorie, un état de droit démocratique se doit pourtant de respecter le principe fondamental de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, t'as chopé le gamin, il a fait un truc interdit. Lui, il peut aller devant le tribunal, mais normalement, pas sa maman, son papa et sa petite sœur. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 121.1 du Code pénal. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Voilà, mais comme le rappelle encore ce même communiqué de presse, la punition collective, si elle est proscrite par la loi, reste une pratique récurrente dans la relation qu'entretient l'État avec les quartiers populaires. L'idée de rendre responsables les familles de personnes accusées d'avoir commis un délit est un vieux fantasme de droite. Parce que, il faut bien le dire, la droite a un discours un peu sélectif sur l'état de droit. En résumé, à chaque fois qu'un flic se fait insulter, c'est une catastrophe parce que l'état de droit est en danger. Mais à chaque fois qu'on rappelle à ces gens que ce principe de l'état de droit est censé garantir des droits aussi aux pauvres et même aux délinquants, ce même état de droit est tout d'un coup un problème dont il faut se débarrasser, comme nous l'a dit Retailleau il y a quelques semaines. L'état de droit, moi je vais vous dire, c'est une très belle utopie sur le papier. C'est super, c'est des droits égaux pour tous, respectés par les puissants autant que par les misérables. Si ça avait la moindre chance de marcher, en vrai, ça serait génial. Alors pas autant que l'égalité, dans laquelle il n'y aurait pas de puissants, mais quand même toujours vachement mieux que le monde dans lequel on est. Mais bon, comme les puissants sont des puissants, et ben depuis que le monde est monde, et tout autant depuis que la majorité des États se réclament de l'état de droit, ce principe n'a aucune chance d'être appliqué jamais. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais été. Voilà, tant pis.
Canu Info.
Je vous ai promis depuis longtemps un point sur le retour d'expérience de la légalisation du cannabis au Canada. Mais il se trouve qu'une étude est sortie sur le bilan de la politique des drogues aux USA, j'ai commencé à bosser sur un truc, puis finalement je suis tombé dans un rabbit hole, ou un terrier de lapin pour faire plaisir aux Québécois. Du coup, je vous en parlerai un jour si j'arrive à m'extirper de ce terrier de lapin. Néanmoins, parce qu'il y a un néanmoins, sinon je me serais juste abstenu de vous faire un duplex depuis le 7ème pour vous dire que je vais pas vous parler d'un truc dont j'ai dit que j'allais parler il y a suffisamment longtemps pour que plus personne ne s'en souvienne. Néanmoins, donc, l'actualité sinistre m'oblige quand même à vous glisser quelques mots à ce sujet. Tout commence jeudi soir dernier, le 31, à Poitiers, dans le quartier de la Couronnerie. Des coups de feu sont tirés dans la foule devant un kebab, 6 mineurs sont blessés, dont un gravement. Les tirs arrivent alors que la foule est nombreuse dans la rue en ce soir d'Halloween. Des rumeurs déclenchent une échauffourée dont la nature exacte reste encore peu claire. La presse parle de bagarres ayant impliqué une cinquantaine de personnes, mais aussi de potentiels témoins à qui la foule serait venue chercher des noises. En tout cas, samedi, on apprenait que le jeune blessé décédait de ses blessures. Mais avant ça, vendredi 1er novembre, le ministre de l'Intérieur, qui ne peut décidément pas de s'empêcher de faire chier le monde, même un jour férié, avait prévu de se déplacer à Rennes pour parler de la lutte contre le trafic de drogue. Il en profite pour se lancer dans une première série de déclarations délirantes. Les jeunes bagarreurs, qui sur la dalle de la Couronnerie étaient 50, se trouvèrent par un propre renfort 500 dans le discours du ministre de l'Intérieur. Le cascadeur de l'Intérieur, qui n'était plus à sa près, déclarait par la suite « Les narco-racailles n'ont plus de limite. On est à un point de bascule. » Le ministre en parlant d'une guerre totale à la drogue, si on ne voulait pas une mexicanisation de la France. Comme si le Mexique n'avait pas déjà assez de problèmes avec son voisin du Nord, pour en plus devenir la nouvelle expression repoussoire des ministres d'extrême droite. L'après-midi même, le procureur de la République de Poitiers se rendait d'un communiqué pour remettre un peu de mesure dans cette histoire, rappelant qu'à l'heure actuelle, le mobile exact des coups de feu n'était pas connu et que la bagarre avait tout au plus concerné une cinquantaine de personnes. Alors je vous parle, le motif des coups de feu n'est toujours pas plus connu. Évidemment, ça n'a pas empêché le ministre d'être en roue libre depuis, multipliant les déclarations à la con, dont je vais vous épargner la liste. On notera que, comme à son habitude, les propositions un peu concrètes concernent surtout des choses qui existent déjà, comme la mise en place d'un parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé, ou, j'en parlais déjà ici, frapper les trafiquants au porte-monnaie. Au vu des déclarations du ministre, les réseaux de trafic de drogue ont beau jour devant eux. Mais les trafiquants de drogue illicite ne sont pas les seuls à avoir beau jour devant eux. Le gouvernement proposait d'augmenter les taxes sur l'alcool. C'était censé rentrer dans le nouveau projet de loi de financement là, qui est en train d'être examiné au Parlement. Vu la nécessité de trouver de l'argent public, ça paraissait pas être une mauvaise idée. Alors, augmenter, c'est un grand mot. Hein. On parle d'une augmentation de l'ordre de 3 centimes par bouteille de vin et de 1 à 2 euros par bouteille d'alcool fort. Mais c'est déjà trop pour le lobby du vin et son allié de poids, le rapporteur du budget de la Sécurité sociale. Celui-ci est monté au créneau à l'Assemblée nationale, déclarant « On n'a jamais vu de profil arrivé aux urgences avec un excès de consommation de Côte-du-Rhône ou de Bordeaux. » Rappelons que, si je ne suis pas pour la prohibition de l'alcool, d'ailleurs ni des autres stupéfiants, celui-ci est à l'origine d'environ 41 000 décès par an, loin derrière la cigarette et ses plus de 70 000 morts, mais aussi loin devant toutes les autres drogues et leurs 1 500 morts environ par an. Donc j'avais pris les chiffres de 2021, c'est les derniers qui sont agrégés. Rappelons aussi que, selon la Haute Autorité de Santé, la majorité des dommages liés à l'alcool concernent des personnes pour qui la consommation n'était pas repérée comme problématique et que, en termes de repères de consommation à moindre risque, c'est pas plus de 2 verres par jour, pas plus de 10 verres par semaine et au moins 2 jours sans consommation. À vous les studios.
Canu Info. Du mercredi.
Eh bien, puisqu'on parle de gros rouge, c'est le moment où on va parler d'accident de chasse.
À vous, t'as fait exprès. C'est toi qui as fait, t'as fait exprès d'enchaîner les deux.
Mais non, parce que je savais pas que notre camarade allait parler de gros rouge. Alors voilà, une simple cueillette de champignons entre amis en ce mois de novembre qui tourne au drame. Un homme de 38 ans a dû être quand même amputé de la jambe après avoir été victime d'un tir accidentel mercredi dernier par un chasseur. Voilà, un chasseur de 82 ans qui, ma foi, l'avait confondu avec un sanglier.
Erreur courante.
Erreur courante, tout à fait. On va pas refaire la liste des. Alors le cycliste anglais, c'était avec un chevreuil qui lui a été confondu. La vieille dame derrière sa haie, c'était avec un cerf et je sais plus lequel. Le sanglier aussi un peu un truc récurrent dans les discours des chasseurs qui, ma foi, ont plutôt buté des gens. Là, en l'occurrence. Alors quand il a été conduit à l'hôpital, c'était avec un pronostic vital engagé. Bon, finalement, il s'en tire avec juste une jambe en moins. Et en tout cas, interviewé dans Var Matin, il revient un peu sur les circonstances de l'accident. Du coup, il dit « En descendant, je ne les vois pas arriver. J'entends ni les chiens, ni les voitures, ni les mecs postés. J'ai été à une centaine de mètres de la voiture. C'était clair, la zone était était très peu boisé. Je remontais sur le chemin. Où était le chasseur? Je l'avais même pas vu. Et tout d'un coup, j'entends une explosion. Je pensais avoir marché sur une mine, a-t-il déclaré. Là, il s'est mis à crier parce qu'il était avec un pote. Baptiste, aide-moi, je vais mourir. Donc, il continue à raconter. Ma jambe avait explosé. Il n'y avait plus rien. Il m'a tiré dessus avec un truc d'éléphant à 20 mètres. Je ne sais pas exactement où il était, mais je ne l'ai pas vu tirer. Mais quand on ne voit pas, dans tous les cas, il ne faut pas tirer dans les broussailles.
Ah bon ?
Bah c'est lui qui le dit. Hein. Je veux juste que les gens qui m'ont fait ça payent et que la personne qui a tiré arrête de dire que j'étais accroupi et qu'il a cru à un sanglier, insiste-t-il. J'étais debout avec le panier de champignons dans la main. C'est sans doute le panier de champignons. Si ça se trouve, le chasseur, il était jaloux parce que l'autre, il lui avait piqué son coin à champignons.
Ah, et ça ?
Et ça, j'aime mieux vous dire, dans les campagnes, ça rigole pas avec les coins à champignons. Bon bref, la saison de la chasse commence bien, parce qu'elle commence il n'y a pas très longtemps, hein, on est déjà là. Mais par ailleurs, on constate quand même aussi cette année que les animaux visiblement se rebiffent. Et quand je dis cette année, c'est dans les derniers jours. Puisque dans les Ardennes, samedi dernier, un connard de 62 ans, fusil à la main, était sans doute en train de traquer des ramasseurs de champignons. Toujours est-il qu'on ne sait pas les circonstances exactes, mais les pompiers sont venus le chercher après qu'il ait été piétiné par un cerf. Ça, c'était samedi dernier. Et aujourd'hui, puisque donc tous les jours sont jours chasse, dans les Ardennes toujours, un autre nuisible armé, âgé d'une cinquantaine d'années, celui-là, a, ma foi, été chargé par un sanglier. Le pronostic de la victime n'est malheureusement pas engagé.
Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne. Tiens, regarde Georges, par exemple.
J'étais tout gosse, moi. Et quand je voyais ces types aux actualités, je me disais, c'est ça un flic.
Quelle horreur.
Ah, ça pue, c'est ce qui se sait.
Sans mauvais, mais guéris bien.
Ah oui, Georges, ça pue. Écoute plutôt Radio Canu.
J'adore ce nouveau jingle. Donc, on va aller faire un tour en Turquie où la répression s'abat sur des villes kurdes. Et c'est les maires de trois grandes villes dans le sud-est de la Turquie, donc la partie un peu du Kurdistan, donc à majorité kurde, qui ont été supprimées, expulsées, annulées, je sais pas comment dire. En tout cas, ils ont été remplacés par une administration nommée par l'État. Les trois villes sont mises sous tutelle. Mises sous tutelle sont donc Mardin, Batman et Alfeti, toutes les trois faisant partie du... Il s'agissait de trois mairies faisant partie du parti de gauche DEM. Alors DEM, moi c'était la première fois que j'avais pas suivi le changement de nom, mais c'était ce que c'est l'ancien HDP, on en a parlé plusieurs fois, mais du coup ils ont changé de nom parce qu'en fait tous les gens qui faisaient partie du HDP il y a quelques années maintenant se sont tous fait arrêter parce que ils étaient soupçonnés d'entretenir des liens étroits avec le PPKK. Et donc là, bah, comme à son habitude dans ce genre d'opération, le gouvernement accuse les trois maires de liens avec
terrorisme
et de liens avec le PKK. Pour l'instant, l'histoire ne dit pas s'il s'agit d'une représaille après un attentat revendiqué par le PKK qui a eu lieu fin octobre, qui a fait 5 morts et 20 blessés. Le parti DEM, donc ex-HDP, parle d'un coup d'État et dénonce une attaque contre les droits du peuple kurde à voter et à être élu. De nombreuses révoltes ont éclaté dans les villes concernées et dans d'autres villes. De nombreux journalistes kurdes ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de prendre en photo les manifestants. Bref, c'est plutôt ça l'ambiance de cette partie-là du monde aussi.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et tiens, je tombe sur un article, alors plutôt anecdotique quand même, mais au détour duquel on apprend un ou deux trucs. Figurez-vous qu'un portail internet va être mis en place, d'abord sous forme de test dans 8 départements, pour rembourser les gens dont les flics ont par erreur défoncé la porte. Alors par erreur, l'article précise bien que ça ne concerne pas les gens dont les flics ont bien décidé d'enfoncer la porte sans se tromper sur leur identité. Ceux-là, ils peuvent toujours se gratter. Mais les autres, les gens honnêtes, c'est finalement pas si rare que leur porte explose au petit matin, qu'ils se retrouvent tirés de leur lit par 10 moustachus en train de gueuler des menaces et des insultes, plaqués au sol de force, les gosses pareils, enfin tout le tout-team, pour qu'on se rende compte au bout d'un moment, plus ou moins long, qu'il y avait juste erreur sur la porte. Alors combien d'erreurs sur la durée, sur une année, en période de tension, en période de guerre au terrorisme, l'année dernière, alors on ne le saura pas bien sûr. Un chiffre, un seul, apparaît quand même dans l'article. D'après le ministère de la Justice, 602 personnes auraient bénéficié d'une compensation financière après des erreurs des forces de l'ordre en 2023. 602 personnes sur une année. Mais combien attendent encore d'être indemnisés, demande l'article. Et oui, combien? Et à combien se monte l'indemnité? Alors 602 personnes, c'est quand même pas mal sur un an, ouais, c'est pas mal. Et puis, il y en a sans doute un peu plus, par exemple, celles qui ne font jamais la demande, par exemple, des gens qui préfèrent finalement ne pas fréquenter la police de trop près, ne pas se plaindre. On peut supposer en réalité assez facilement que dans les quartiers où la police fait péter le plus de portes, et surtout dans les quartiers où la police est le plus négligente sur qui habite dans quel appartement, c'est potentiellement des quartiers où il y a des personnes qui préféreront rester discrètes après. Je sais pas moi, des gens qui n'ont pas de papier, des gens qui... toutes sortes de trucs où les... Bon, on peut se dire que c'est ça, on peut se dire qu'il y en a plus que ça. Alors, on pourrait quand même imaginer que dans un cas comme ça, les flics arrivent, ils pètent ta porte. En vrai, ils finissent par repartir après t'avoir mis au sol et effrayé toute ta famille, traumatisé tout le monde, par repartir en faisant « Oh, désolé, là, on va passer à la porte à côté, plutôt. » On pourrait imaginer que l'État serait un peu désolé que l'administration fasse ce qu'elle peut pour compenser quand même de manière un petit peu... pour compenser vraiment, quoi. Mais dans cet article de 20 minutes, donc, où j'ai trouvé ça, on trouve encore ce paragraphe qui dit « Nos confrères de TF1 ont retrouvé Monique et Pierre, habitants d'Ille-et-Vilaine, dont la porte d'entrée a été défoncée par erreur par le RAID au printemps 2023. L'unité d'élite de la police cherchait des trafiquants. Ils sont tombés sur un tranquille couple de retraités. Depuis, les deux Bretons n'ont pas été remboursés et s'impatientent, bizarrement. Et là, vous avez bien compris, hein, on parle bien d'un couple de vieux, bretons, français et blancs, pas des gens à, pas les gens qu'on a l'habitude de voir les plus maltraités par la justice. Allez, haut les cœurs quand même, la prochaine fois que ça vous arrive, si vous avez la chance d'être dans un des 8 départements test, vous pourrez au moins faire une demande en ligne.
Eh ben, c'est joli. Eh ben, c'est presque la dernière info. J'en rajoute une toute petite. C'est pour annoncer la mort de Madeleine Riffaut. C'est une résistante qui était engagée à l'âge de 18 ans dans le groupe FTP, Franc-Tireurs et Partisans. Voilà, elle est morte à l'âge de 100 ans. Oui. Et on peut finir par un petit agenda. Donc, eh ben, on rappelle quand même le l'habituel rassemblement à 15h samedi, place de la République, qui réclame la fin du génocide en Palestine et la fin de l'agression au Liban. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une rencontre antimilitariste à Saint-Étienne. Allez, c'est pas très loin, puis les trains, ils ont réouvert. Donc ça vaut le coup d'aller y jeter un œil.
Les trains ont réouvert?
Les trains ont réouvert, mais bien sûr, les trains ont réouvert. Wow. Peut-être, je crois pas tous, mais ça commence.
Les trains ont réouvert, vous pouvez aller jusqu'à Givors, là, si vous êtes entre 8h et 10h du matin, vous avez une petite chance d'avoir un bus, mais vous l'attendrez longtemps quand même, ou si vous êtes entre 18h et 20h.
On sent que tu fais partie des usagers en colère.
Ouais, ça m'énerve.
Donc, c'est
quand il y a des grèves, ils trouvent toujours des centaines de bus à mettre pour dire tout circule normalement, en vrai, il n'y a pas de grévistes. Mais quand c'est pas des grèves, quand c'est des catastrophes naturelles, ils en ont rien à foutre.
Ouais, c'est une ligne où visiblement ils n'ont rien à foutre des usagers, ça c'est clair. Mais bon, ça vaut quand même le coup d'aller se rendre à Saint-Thé pour cette rencontre antimilitariste. Et ça se passe à la MJC des Tilleuls, c'est dimanche 10 novembre et c'est de 10h à 22h. Waouh, gros programme. Dimanche, donc si vous décidez de ne pas aller à Saint-Étienne, vous pouvez toujours aller au Grand Zéro, donc c'est à Vaux-en-Velin, c'est vrai que c'est moins loin. Et là c'est une journée, parce que c'est de midi à minuit, en soutien au peuple palestinien et libanais, avec cantine, projection, discussion et DJ set à la fin pour s'ambiancer malgré tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, dans les trucs qui ont l'air chouettes aussi, il y a la soirée Lyon Info Migrant le 12 novembre dès 18h30 à l'Amicale du Futur, et ça va parler hébergement solidaire et citoyen, parce qu'en vrai il y a quand même malgré tout ce que l'ambiance générale peut nous laisser penser, quand même tout un tas de gens qui ont décidé de s'organiser plus ou moins en association, plus ou moins en collectif, plus ou moins en petit groupe, pour quand même dépanner un peu à droite à gauche des gens, des sans-papes qui sont en galère, et de pas se laisser comme ça un peu sans rien faire, en se disant bon bah en fait c'est vrai que quand même chez moi j'ai une chambre en plus, voilà, ça peut servir. Donc il y a quand même tout ça qui se passe aussi plus ou moins dans le silence, mais voilà, bah c'est, en tout cas c'est le temps c'est le moment d'échanger là-dessus. Donc c'est le 12 novembre dès 18h30 à l'Amicale du Futur. Voilà, et ben c'est 19h51. On vous laisse le temps de digérer un peu tout ce qui se passe actuellement. C'est pas la fin, on s'en sortira à un moment donné. Courage à toutes et tous, hein. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonne soirée.
Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.